Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble un texte dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 1, et je vais lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Et le titre de cette étude, c'est « La gloire du Fils unique venu du Père ». La gloire du Fils unique venu du Père. Et nous lisons ici dans Jean 1 et le verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, lorsque je lis ce passage, je vois avec quel respect et honneur que l'apôtre Jean écrit au sujet du Seigneur Jésus. Cela n'est pas ce que nous avons l'habitude d'entendre dans le monde religieux. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ en vérité parlent souvent de lui en termes communs et familiers, utilisant son nom Jésus comme si c'était un camarade ou bien un compagnon de route. Mais notez bien la manière que l'apôtre Jean ici parle et écrit au sujet de notre Seigneur Jésus. Combien de fois il écrit ici plein de grâce et de vérité. Cela le distingue de tout autre Jésus qui peut être mentionné dans le monde. Il faut savoir que le nom Jésus était un nom commun, même à l'époque où notre Seigneur Jésus marchait sur ces terres, il y avait d'autres qui s'appelaient Jésus, comme d'autres peuvent être appelés Pierre ou bien Jean ou Jacques. Mais qu'est-ce qui distingue Jésus de Nazareth? Qu'est-ce qui le distingue de tout autre? C'est le fait qu'il est plein de grâce et de vérité. C'est le contraire de ce qui est en nous. Nous n'avons par nature aucune grâce en nous. Et nous sommes des menteurs. Nous sommes nés dans le mensonge. Notre nature est dans le mensonge. Mais lui, il est plein de grâce et de vérité. Et puis, deuxièmement, nous avons lu ici comment il avait et a en lui-même une gloire, Jean le décrit comme celle du Fils unique venu du Père. Une gloire. Notre gloire qui est en nous est temporaire. C'est-à-dire, quand je parle d'une gloire, un enfant est né dans ce monde et puis on regarde le bébé, on dit qu'il est mignon et on suppose que l'enfant est parfait. Mais avec le temps, nous voyons que c'est le contraire, que tout enfant né dans ce monde est né pécheur. Nous n'avons pas besoin d'enseigner à un enfant à être mauvais. Il est de nature. Nous avons besoin d'enseigner nos enfants à dire la vérité. Mais de nature, nous sommes des pécheurs. Et cela devient évident avec le temps. Et puis, plus nous grandissons, plus nous mûrissons, nous apercevons, nous reconnaissons que plus nous devenons âgés, en réalité, nous sommes en train de mourir. C'est comme les fleurs et les plantes sont là pour un moment et puis partis. Alors, nous n'avons pas certainement une gloire, même comme des créatures de Dieu, comme est mentionné ou déclaré ici concernant le Seigneur Jésus. Il avait et a une gloire comme celle, notez bien, du Fils unique venu du Père. Et c'est comme ça qu'il est décrit. Alors, comment est-ce que nous contemplons le Seigneur Jésus tel que l'apôtre le révèle ici? J'ai lu pour vous du verset 14 jusqu'au verset 18, mais je dois vous dire que nous n'allons pas pouvoir tout toucher aujourd'hui. Certainement, nous allons passer la plupart de ce temps ensemble dans le verset 14, parce que dans le verset 14, nous avons un résumé, nous avons expliqué dans un seul verset tout ce qui concerne la gloire de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Et donc, la semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons continuer sur les autres versets. Mais pour décrire le Seigneur Jésus tel que nous voyons ici, dans cette parole inspirée, nous voyons la première des choses, c'est qu'il est Dieu dans la chair. Nous avons commencé à voir ça la dernière fois et c'est répété ici, c'est insisté là-dessus parce que c'est nécessaire. C'est vrai que celui que Jean a vu était un homme, mais c'est clair qu'il n'était pas un homme simple, il était Dieu dans la chair. Celui qui ne croit pas en Jésus comme Dieu dans la chair ne croit pas en Jésus, n'a jamais connu Jésus. Il y a des organisations religieuses où les gens sont enseignés que Jésus était un prophète que Dieu a apprécié, ou d'autres disent même un ange que Dieu a créé et ensuite est devenu un homme. Mais cela est de nier ce que dit la parole de Dieu. La parole déclare clairement que celui qu'on appelle Jésus n'était autre que Dieu dans la chair. C'est écrit dans le verset 14, et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Ça, c'est important. La parole a été faite chair. Le mot chair, ici, est évidemment utilisé pour désigner avoir une nature humaine ou bien devenir un homme. Nous avons d'autres passages de la Bible que nous pouvons regarder ensemble où ça, c'est le sens. Par exemple, dans Matthieu chapitre 16 et le verset 17, quand le Seigneur Jésus a posé la question aux disciples au sujet de ce que les hommes disent concernant lui, nous voyons dans le verset 13 de Matthieu 16, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Déjà, nous avons révélé là un aspect du Seigneur Jésus, quoique Dieu, il était le Fils de l'homme. Pas comme nous, parce que nous sommes nés dans la lignée de d'Adam, mais lui, il est devenu homme. C'est dans ce sens-là, étant le Fils de Dieu. Et ils répondirent, verset 14, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il y a beaucoup d'avis au sujet de Christ et qui il est. Mais cela n'a pas satisfait notre Seigneur dans leur réponse. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Voilà ce qui est important. Il y a l'avis du monde, mais il y a aussi ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus en qui il s'est révélé. Et voilà notre déclaration, verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ouais, verset 13. Il s'identifie comme le Fils de l'homme, mais verset 16, Pierre dit, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es celui qui était prophétisé depuis l'Ancien Testament, qui devait venir et qui est venu, ouais, le Christ, mais notez bien, le Fils du Dieu vivant. Bien sûr, Fils de l'homme, mais pas moindre, Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Ce mot signifie béni. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors vous voyez ce mot chair, car ce ne sont pas la chair et le sang. C'est le même mot que nous avons ici dans Jean 1 et le verset 14. La parole a été faite chair. La parole, comme nous avons vu déjà dans le verset 1 de Jean 1, qui était au commencement et qui était avec Dieu et qui était Dieu, cette parole éternelle est devenue chair. Cela veut dire devenue homme. Alors, la parole a été faite homme. C'est une autre manière de le dire. Alors, cela est communément exprimé en disant qu'il est devenu, nous avons ce mot théologique, incarné. Quand nous disons qu'un être devient incarné, nous voulons dire que celui d'un ordre supérieur à l'homme, et c'est ce que Christ est. Son existence n'a pas commencé avec sa venue sur la terre. Il était depuis l'éternité, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Dieu n'a ni commencement ni fin. Donc si la parole était avec Dieu, ça signifie que depuis l'éternité, la parole était. Et c'est parce que la parole était Dieu. Donc c'est celui de cet ordre suprême, supérieur à l'homme, mais il a pris sur lui une nature différente. Il est devenu un homme. Ça c'est important de dire parce que il y en a aujourd'hui qui ne peuvent pas imaginer comment Dieu peut maintenant prendre la chair. Et voilà le mystère de son incarnation, le mystère de la piété, comme Paul écrit à Timothée, et que Dieu est devenu homme. Il a pris la chair. Dans Jean chapitre 1 et le verset 3, quand c'est écrit, il a été fait chair, ou bien la parole a été faite chair. Nous avons déjà vu ce mot dans le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Alors, il faut savoir que Christ, en devenant homme, n'a pas cessé d'être Dieu. Mais faite chair, la parole a été faite chair, signifie qu'il a pris sur lui un corps et il a habité dans ce corps. Mais il n'a jamais cessé d'être Dieu. Il est devenu un homme, mais il n'a pas cessé d'être Dieu. Tout le temps qu'il a passé sur cette terre, dans ce corps, il continuait à être Dieu dans son existence. Et jusqu'au point que même dans la chair, étant Dieu, il continuait à soutenir toutes choses par sa parole. Voilà le mystère, le fait que Marie était l'instrument par lequel il est venu dans ce monde, il est né dans ce monde. Pourtant, c'est lui qui était non seulement le créateur de Marie, mais celui qui l'a soutenu. Et le lait de ses seins que le bébé Jésus suçait était le lait que lui, en tant que créateur, lui-même, il donnait à sa mère. Dans Hébreux chapitre 1, nous voyons cela dans le verset 1. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et noté, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et noté, soutenant toutes choses par sa parole puissante, même en tant qu'homme, venu pour donner sa vie pour ce peuple que le Père lui a donné, il n'a jamais cessé ou laissé de côté sa puissance de pouvoir soutenir le monde et l'univers. Ça, c'est le Dieu en Jésus que nous voyons dans la Bible. Et c'est écrit, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors vous voyez pourquoi nous ne pouvons pas nous amuser avec le nom de Jésus. Nous voyons avec l'apôtre Jean sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, cela implique sa préexistence conformément à Jean chapitre 1 et le verset 1. Dans Hébreux chapitre 10 et le verset 5, voici la manière que l'Esprit a dirigé l'auteur de cette épître aux Hébreux à écrire cela. Hébreux chapitre 10 et le verset 5. Si nous commençons dans le verset 4, nous savons qu'avant la venue du Seigneur Jésus dans le monde, il y avait l'institution des sacrifices et les offrandes des animaux. Mais le sang versé de ces animaux ne pouvait jamais ôter le péché. On ne peut pas imaginer que le sang d'un animal pouvait maintenant couvrir, enlever le péché d'un homme. Mais c'était institué pour un temps, jusqu'à ce que Christ vienne. Et voilà ce que nous lisons dans Hébreux 10, 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais notez comment c'est écrit, mais tu m'as formé un corps. Alors c'est cette formation du corps qui est décrite ici dans Jean 1 et le verset 14, la parole a été faite chair. Et aussi dans Hébreux chapitre 2 et le verset 14. C'est pourquoi j'aime lire et comparer les Écritures. Nous n'avons pas besoin d'autres commentaires. que de comparer les Écritures avec les Écritures. Dans Hébreux chapitre 2 et le verset 14, c'est écrit ainsi donc, puisque les enfants, il s'agit là des élus de Dieu, de ceux que Dieu, dans sa grâce, a ordonné depuis l'éternité au salut. Les enfants, ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alors c'est ici que nous voyons pourquoi c'était nécessaire pour Christ de devenir chair, Dieu dans la chair, parce que Dieu ne peut pas mourir. Pourtant, dans sa grâce depuis l'éternité, il a ordonné un certain nombre, un grand nombre de pécheurs qu'il voulait sauver, mais il ne pouvait pas sauver ces pécheurs sans satisfaction à sa loi et sa justice. Et la loi dit que celui qui pêche doit mourir. Alors, pour être un substitut efficace, il fallait que Dieu lui-même vienne dans la chair et qu'il offre son corps en offrande à la mort pour les péchés de ce peuple qu'il est venu sauver. C'est pourquoi c'était nécessaire qu'un corps lui soit préparé, parce que Dieu ne peut pas mourir. Le jour que Christ est mort sur la croix, Dieu n'est pas mort. Mais le sang qui a été versé ce jour-là était, et c'est appelé dans les Écritures, comme le sang de Dieu lui-même. Nous savons que Dieu n'a pas de sang, il est esprit, mais dans la personne de Christ, ce sang versé était précieux à Dieu le Père. Alors, voilà la description que nous avons de Christ. Revenons dans Jean chapitre 1, le verset 14 encore. Nous voyons que cette parole qui a été faite chair, c'est écrit, elle a habité parmi nous. Ce mot habiter signifie demeurer. Si on pouvait inventer un mot en français, ça pouvait être le mot tabernacle. Dans l'Ancien Testament, il y avait le tabernacle qui était au centre de cette communauté, de cette nation d'Israël en traversant le désert. Et la gloire de Dieu se manifestait par ce nuage qui demeurait au-dessus de l'autel qui était dans le tabernacle. Mais le tabernacle fait des peaux d'animaux était une représentation de Dieu dans la chair. En voyant les tentes des autres enfants d'Israël autour, le matériel, les peaux dont ces tentes étaient fabriquées, c'était la même peau du tabernacle. Il n'y avait pas de distinction, de différence. Et cela, c'est pour nous montrer que lorsque Christ est venu, et ici le mot est demeuré ou habité parmi nous, c'est le mot tabernacle, c'est pour nous montrer qu'il est devenu un homme comme ceux qu'il est venu sauver, sauf sans le péché. Nous sommes nés avec une nature pécheresse. Il a été venu dans ce monde, il a pris un corps lui a été préparé qui était sans péché. Et cela a été nécessaire pour qu'il soit un sacrificateur et un substitut juste. C'est ce que Dieu, dans sa justice, exigeait. Mais ce mot « demeurer » ou bien « habiter » nous ramène encore dans l'Ancien Testament pour voir dans cette image du tabernacle, une représentation du Seigneur Jésus ou Dieu dans la chair. Et c'est pourquoi Paul, ou bien Jean ici, utilise ce mot, non seulement ici, mais aussi dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Jean se réfère au tabernacle, si vous voyez dans Apocalypse chapitre 7 et le verset 15, pour un moment. Apocalypse 7 et le verset 15, il y a plusieurs autres versets que nous pouvons considérer. Mais c'est écrit, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le serviteur ou bien est le serve jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ouais, le mot tente, c'est le même mot que nous avons ici, habité. Et donc, il dresse sa demeure sur eux. Dans l'Ancien Testament, si les enfants d'Israël voulaient s'approcher de Dieu, il fallait que ça soit à travers un sacrificateur et aussi un sacrifice sanglant. Et il se manifestait dans ce nuage qui, dans l'hébreu, est appelé le Shekinah. Et c'était la manifestation de la gloire du Seigneur. C'est ce nuage qui dirigeait les enfants d'Israël à travers leur voyage dans le désert jusqu'au pays promis. Mais c'est les mêmes termes. Tout ce qui concerne Christ est révélé dans l'Ancien Testament sous forme de ces types et ces représentations. Alors, c'est comme ça que le Christ a été annoncé. C'est pourquoi Pierre a dit, tu es le Christ, tu es celui qui était révélé là. Alors, cette gloire est la gloire du Seigneur. Et c'est une référence à cette demeure. Dans l'Ancien Testament, c'était une demeure temporaire. Mais dans la personne de Christ, c'est une demeure permanente de Dieu parmi son peuple. Même lorsque Christ est ascendu au ciel, il n'a pas cessé d'être homme. Aujourd'hui, il y a un homme au ciel qui, comme la Bible dit, reviendra de la même manière qu'il est parti. Et c'est pour ça qu'il est le représentant de ce peuple qu'il est venu sauver. Une fois qu'il a pris chair, il n'a jamais mis de côté cette chair. Il continue dans cette chair comme le représentant pour l'éternité, à jamais le représentant de ceux que le Père lui a donné. Ça, c'est un sauveur glorieux, que sa venue dans ce monde n'était pas simplement provisoire ou temporaire, mais une fois qu'il a pris chair, il est dans cette chair pour l'éternité. Voilà combien Dieu a aimé les pécheurs, le Père a aimé les pécheurs qu'il a donnés à son Fils, pour que pendant toute l'éternité, il demeure avec eux, exactement comme eux, dans un corps. Ça, c'est un mystère, mais voilà pourquoi nous ne pouvons pas accepter les expressions des gens aujourd'hui qui utilisent le nom de Jésus comme si c'était un nom familier ou commun. Non. Ici, il s'agit de Dieu dans la chair. Maintenant, nous voyons encore dans Jean chapitre 1, verset 14, que c'est écrit en troisième lieu, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, mais notez bien, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Il devrait donc se lire, il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et dans l'expression ici, grâce et vérité, nous avons aussi une phrase utilisée souvent dans l'Ancien Testament en parlant de la miséricorde et la vérité qui sont maintenant unis dans une seule personne, le Seigneur Jésus, dans le livre des Psaumes et le chapitre 85 à partir du verset 10 et 11. C'est écrit, oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire, voilà le mot, la gloire habite dans notre pays. Le salut est près de ceux qui le craignent. Qui sont ceux qui craignent Dieu, si ce n'est ceux en qui il a mis son esprit de grâce? Les gens ne vont jamais craindre Dieu dans toute sa gloire sans l'esprit de Dieu, parce que nous sommes nés dans ce monde pécheur et nous sommes aveugles dans notre péché. Ainsi, nous ne pouvons jamais voir Dieu ou son royaume sans que l'Esprit de Dieu nous donne les yeux pour voir et contempler sa gloire, surtout en Jésus-Christ. Mais voici verset 11. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Quand vous voyez ces mots, la bonté et la fidélité, une autre manière de traduire, c'est la miséricorde et la vérité. Ou bien, même comme nous lisons ici dans Jean 1,14, la grâce et la vérité. C'est pour nous montrer que Dieu ne peut pas faire grâce sans que ça soit selon la vérité. Il ne peut pas pardonner des pécheurs tant que sa justice d'abord ne soit satisfaite, autrement il serait un juge injuste. Alors vous voyez maintenant l'importance de cette expression, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, pleinement. C'est-à-dire que cette grâce ne peut jamais manquer aux pécheurs que Christ est venu sauver. Voilà la différence entre le Christ de la Bible et le Jésus qui est prêché populairement aujourd'hui. Parce que le Jésus qui est prêché aujourd'hui est un Jésus que oui, il peut faire grâce, mais il y a des conditions. Il faut croire, il faut toujours persévérer, toutes les conditions sont placés sur les hommes. Et les prédicateurs aiment prêcher de cette manière parce que ça garde leur auditoire dans la crainte de supposer que, ah, si je fais une faute, alors peut-être que je perdrai mon salut. Non. La grâce, c'est écrit pleine de grâce et de vérité, cette grâce qui est en Jésus-Christ est une grâce qui a déjà satisfait la justice de Dieu et que la vérité et que cette grâce maintenant est donnée parce que Christ a déjà payé la dette. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que la Bible appelle la bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle de dire que Dieu veut faire grâce, ou bien Christ est venu donner sa vie, mais hélas, si l'homme lui-même n'achève pas pour accepter, donc alors Dieu est obligé à l'écarter, à le condamner, l'envoyer à l'enfer. Non. Pleine de grâce. Si nous appartenons à Christ, il n'y a aucun péché pour lequel Dieu peut maintenant nous condamner. Pleine de grâce. C'est cette grâce qui couvre tout péché parce que la vérité, c'est-à-dire la fidélité de Dieu, est que Christ a déjà payé cette dette. Ce n'est pas que Dieu maintenant regarde ailleurs, sachant que nous sommes des pécheurs. Non, il ne voit plus le péché de son peuple. Parce que Christ a déjà porté ce péché. Alors voilà le sens que nous avons ici. Que c'est une grâce assurée. C'est comme ça que dans Ésaïe chapitre 55, les pécheurs sont encouragés à s'approcher du trône de la grâce du Seigneur Jésus. Notez ce que Dieu dit ici. Et je dois vous dire que l'évangile n'est pas une invitation. Les gens aiment parler de cette manière que voilà, c'est une offre que Dieu fait aux pécheurs. Non. Ce n'est pas une invitation, ce n'est pas une offre, c'est une convocation. C'est-à-dire que Dieu, depuis l'éternité, a déjà choisi les pécheurs qu'il a ordonnés au salut. Et c'est pour eux que le Seigneur est venu dans ce monde. Il n'est pas venu pour vouloir sauver chaque individu. Non, il avait déjà un peuple que le Père lui a donné. Et c'est pour eux qu'il est venu donner sa vie, jusqu'au point où il dit que de tout ce que le Père lui a donné, il ne perdra de rien, aucun de ce nom. Donc, quand nous lisons dans les Écritures des versets comme nous avons ici dans Ésaïe 55, ce n'est pas une invitation, mais c'est une convocation. C'est écrit dans le verset 3, « Prêtez l'oreille et venez à moi. » Notez l'ordre. « Prêtez l'oreille » suppose alors que Dieu a donné des oreilles pour entendre. Autrement, on n'entendra jamais cet appel, cette convocation. Mais « Prêtez l'oreille et venez à moi. » Une autre manière de lire ça, c'est que tous ceux qui prêtent l'oreille, c'est que Dieu leur a donné des oreilles pour entendre, et donc ils viennent. C'est ce que Christ a dit, que de tous ceux que le Père m'a donné, ils viendront à moi. Et puis il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Les gens aiment citer en Jean 6, 37, la deuxième partie de ce verset. Ils disent, ah oui, mais si vous venez, vous voyez, Dieu ne peut pas vous mettre en dehors. Mais ils ignorent la première partie. Qui viendra? C'est ce que le Père lui a donné. Donc tout cela est compris aussi ici. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Ça suppose alors que c'est l'esprit de vie, l'esprit de Christ, cet esprit de grâce qui est donné pour que l'âme vive et pour que ces pécheurs entendent et écoutent. Et il dit, je traiterai avec vous, c'est pas avec tous les hommes, mais avec vous, une alliance éternelle, et notez bien, pour rendre durable mes faveurs envers David. David était déjà mort, mais quand il dit rendre durable mes faveurs envers David, il s'agit là de la promesse que Dieu a faite à David que de son sein, de sa postérité, viendra maintenant un qui devait être le sauveur des pécheurs et qui devait s'asseoir sur le trône. Notez bien, je traiterai avec eux une alliance éternelle et pour rendre durable. Tout ce qui était jusqu'à Christ était temporaire, mais par sa mort et sa vie d'obéissance, il a rendu durable alors les faveurs que Dieu a promises à David. Alors, voilà le sens de Christ dans la chair, Dieu dans la chair, plein de grâce et de vérité. Et puis le dernier point pour aujourd'hui que je voudrais souligner dans Jean 1 et le verset 14, et c'est de ça que nous avons le titre, une gloire. comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, la troisième chose que nous voyons au sujet de Christ, non seulement Dieu dans la chair, deuxièmement, plein de grâce et de vérité, mais troisièmement, la manifestation de la gloire de Dieu. Nous avons contemplé, j'en dis, sa gloire. Et puis il ajoute, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Nous avons vu sa gloire. Ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, parce que nous savons que la Bible dit que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais voilà la manière qu'il a plu à Dieu de se manifester dans la personne de Christ, dans la personne d'un homme. Un homme, Dieu dans la chair. Voilà ce qui était pour ceux du temps de Christ difficile à croire, que cet homme qui marchait, qui est né à Bethléem et qui a grandi à Nazareth n'était autre que Dieu dans la chair. C'est un mystère, mais c'est ce que Dieu révèle. Et Jean dit qu'il voyait celui-là, non pas comme le fils d'un charpentier, mais la gloire de Dieu comme une gloire de celle du Fils unique venu du Père. Il s'agit ici plus que simplement le voir physiquement, parce que beaucoup ont vu le Seigneur Jésus avec leurs yeux naturels, mais cela n'a pas été pour eux alors une conversion. Non, il fallait un discernement spirituel dont nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 2. Voir ici, nous avons vu sa gloire. Et plus que des yeux naturels, mais 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 7 dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. C'est un mystère parce que ça doit être révélé, caché aux yeux naturels des hommes. Et c'est écrit que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils avaient vu réellement que c'était effectivement Dieu dans la chair, aucun ne l'aurait crucifié. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qui aime Dieu? C'est ceux qui sont appelés selon son dessein. Et qui sont ceux qui sont appelés selon son dessein? C'est ceux qui l'aiment. Et verset 10 dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, lorsque Jean dit que nous avons contempler sa gloire. Nous savons que c'est parce que l'Esprit de Christ, lui, a été donné pour le connaître. Et c'est écrit une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Pourquoi ce terme Fils unique venu du Père? À vrai dire, il est le seul Fils de Dieu. Dans ce sens-là, Fils unique. Dans sa nature, depuis l'éternité, le Fils de Dieu. Il faut savoir que ceux qu'il sauve sont des fils par adoption. Nous ne sommes pas des fils par nature, mais par adoption. Parce que c'est l'Esprit de grâce qui fait de nous des enfants de Dieu. Le terme naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Et c'est comme ça que nous devenons fils de Dieu. Mais il est le fils unique de Dieu, c'est-à-dire ayant toujours été le fils de Dieu. Il n'est pas venu ou devenu fils de Dieu, mais il est le fils de Dieu qui est devenu un homme. Et cela est important pour le salut. Il fallait que Christ soit Dieu pour que Dieu soit satisfait, mais il fallait aussi qu'il soit homme pour qu'il puisse représenter des hommes, des pécheurs pour qui il est venu dans ce monde. Alors nous allons arrêter l'étude là aujourd'hui. Combien profond ce passage, et je ne prétends pas pouvoir dire que j'ai tout approfondi, mais que le Seigneur nous dirige pour que nous puissions réfléchir de nouveau et continuer à réfléchir sur ce que nous venons d'entendre et relire pour comprendre combien est grand, combien est glorieux le Seigneur Jésus venu dans la chair.